Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Vous êtes aussi sur le site et sur Expat Radio sur Internet, qui, comme le dit le nom, Expat pour les expatriés français. Voilà. Aujourd'hui, je reçois Hervé Benoît pour Mauvaise Pente aux éditions Blackout. Bonjour Hervé.
Bonjour à toutes et à tous.
Comment donc vous allez vous présenter à nos auditeurs, parce qu'ils ne vous connaissent pas, c'est votre premier roman peut-être?
C'est mon premier roman, du moins c'est le premier qui est accepté à la publication, mais il y en a eu d'autres avant et fort heureusement ceux-là n'ont pas été acceptés et j'en suis très fier.
Ah bon? Mais oui. C'est rare de dire ça.
Il faut le dire parfois, quand on sait qu'un produit n'a pas été bon, qu'il n'est pas sur le marché, tant mieux. Et là je suis sûr que mon produit est bon, il est sur le marché. Tant mieux aussi.
Alors, vous allez vous présenter à nos auditeurs, parce qu'ils ne vous connaissent pas, comme c'est un premier roman édité. Donc, vous allez vous présenter. Vous avez le temps, vous pouvez expliquer votre cheminement, il n'y a aucun problème.
Très bien. Alors, donc, je suis un jeune auteur, mais de 53 ans quand même, donc ce n'est pas si jeune que ça. Ce qui a toujours été jeune chez moi, c'est la pratique de la littérature. C'est vrai depuis l'âge de 15 ans. Donc, fallait bien que ça aboutisse à quelque chose un jour ou l'autre. Et là, c'est un premier roman. Et j'espère qu'il est sur la bonne pente. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire le jeu de mots par rapport au titre. Mais voilà, je crois que c'est comme un aboutissement. On parlait de polar tout à l'heure. C'est un polar prétexte. Et on parlera peut-être plus longuement
Alors, qu'est-ce que vous appelez un polar prétexte? Je rebondis sur ça.
Eh bien, un polar prétexte, pour moi, c'est l'idée qu'un livre, un roman notamment, puisse prendre la forme du roman policier, mais sans pour autant en respecter tous les codes. C'est-à-dire qu'ici, il y a bien une disparition, il y aura bien un crime de commis, mais fatalement, ce n'est pas forcément ces recherches-là qui vont nous intéresser, puisque le héros ou l'anti-héros va lui partir à la recherche de sa propre personnalité, la personnalité de son père, de son grand-oncle, qui pose tant de problèmes. Et
de son histoire, quoi.
De son histoire, oui.
Donc, comment vous est venue cette idée et ce sujet et ces personnages, quoi?
Alors en fait, je pense, quand vous me posez cette question, je pense à ce que répondait Umberto Eco dans L'Apostille au nom de la rose. Il dit ceci: « Un jour, j'ai eu l'envie d'assassiner un moine. » Il l'écrit dans un cahier de brouillon. Et des mois plus tard, on sait que ça donne Le nom de la rose. Alors, toute proportion gardée, pour ma part, moi j'ai discuté un jour avec une AUD, du lycée Raoul Dautry où je travaille, qui est d'origine éthiopienne. On a discuté une quinzaine de minutes sur l'Éthiopie, sur Addis Abeba, etc. Et à partir de là, m'est venue l'idée d'un personnage qui rechercherait la proximité avec la communauté éthiopienne. Donc voilà comment c'est venu.
Ah d'accord, donc on va voyager dans votre roman.
On voyage.
En voyage.
En voyage, tout à fait.
Donc, vous n'avez pas fini de vous présenter, parce que là, c'est vous vrai. Venez de parler de Raoul Dautry, donc ça peut effectivement porter à confusion par rapport à nos auditeurs.
Exactement, j'ai sauté quelques étapes. Donc, je suis professeur de lettres et d'histoire-géographie depuis à peu près 28 ans maintenant. Et donc, je crois que je suis à la croisée des chemins de mon métier, puisque j'enseigne à la fois l'histoire, donc les sciences humaines, et les lettres, donc la vérité du côté de l'histoire et la fiction du côté des lettres. Donc ça correspond assez bien au roman, finalement, qui part d'un personnage qui a existé, un personnage historique, Alain Gerbaud. Et à partir de là, on lui invente une descendance qu'il n'a pas eue, et qui est Karim Gerbaud, notre jeune flic du Limousin.
D'accord. Donc, vous êtes venu à ce roman par une rencontre. Cette personne, elle est dans votre lycée, je suppose?
Non, cette personne ne travaille plus dans l'établissement, et j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse pas elle ne fait pas partie de l'œuvre, mais en tous les cas, c'est vrai que c'était un élément déclencheur pour l'histoire.
D'accord.
Mais il y en a eu d'autres aussi, hein, par ailleurs.
D'accord. Vous pouvez parler justement de ce déclenchement, s'il n'y a pas qu'une personne.
Exactement. Alors, par exemple, Pierre, vous n'êtes pas sans connaître, par exemple, le festival de poésie qui se déroule tous les ans à Vic-sur-Breuil,
oui,
au château de Vic-sur-Breuil. Alors, le château de Vic-sur-Broye est un des lieux du roman. Pourquoi? Parce que notre Karim Gerbaud donc, va proposer à Vic-sur-Broye une partie de ses œuvres pour qu'elle soit éditée, hein, parce qu'il est poète. Vous voyez, là, on mélange aussi ce qui est tout à fait réel. Ce festival de poésie, il existe. D'ailleurs, il va fêter sa 10e année. Et donc, on voit que le château prend aussi une place et les gens qui sont dans le château prennent aussi une place dans le roman. Donc, là aussi, c'est un autre élément déclencheur, parce que je fréquente ce festival de poésie depuis 3 ans maintenant.
D'accord, donc tout s'entremêle. Maintenant, j'aimerais, dans cette première partie d'émission, j'aimerais que vous nous parliez du roman, que vous nous le présentiez, parce que qui mieux que l'auteur peut parler de son roman?
Exactement. Alors, c'est un paradoxe en fait ce que vous venez d'évoquer. Vous dites qui mieux que l'auteur peut parler de son roman? Pas forcément, je me suis rendu compte notamment avec Fabrice Garcia Carpintero, qui est mon éditeur, il avait, j'ai une anecdote qui va éclairer un peu les auditeurs. Il avait un jeune stagiaire qui travaillait avec lui, qui a lu le roman, n'est-ce pas, et qui devait produire une quatrième de couverture. Moi, de mon côté, j'en ai produit aussi une autre. Eh bien, en fait, la meilleure des deux, c'est pas la mienne, c'est celle de ce jeune stagiaire
Du lecteur,
et du
quoi.
lecteur. Donc, alors, je vais évidemment m'atteler à vous parler du roman, mais je suis pas sûr d'être le mieux placé. Tout simplement parce que le roman maintenant m'échappe un peu.
C'est ce que j'allais dire. De toute manière, à un moment donné, à la fin, le roman, on quitte son bébé, enfin, le bébé devient grand et il vit tout seul au travers du regard des autres.
Pierre, vous avez tout dit, il vit tout seul à travers du regard des autres, et c'est pas plus mal parce que ça me permet peut-être d'aller vers autre chose. Mais alors, pour parler du roman, parce qu'il faut bien en dire quand même quelques mots.
Ah ben oui,
Donc,
tout à fait, parce
c'est un
que...
roman qui parle donc d'un jeune policier qui est nommé à Limoges. Il a réussi le concours, contre toute attente, peut-être. C'est pas le meilleur policier qu'on puisse imaginer. Parce que lui, surtout, ce qui l'intéresse, c'est de produire de la poésie, d'en lire, et il rêve certainement d'être publié. Et donc, ce jeune Karim Gerbaud, pour ne pas le nommer, quand il arrive à Limoges, il recherche la compagnie des Éthiopiens et des Éthiopiennes de Limoges, et il va la trouver. Mais en même temps, son métier va le rattraper, parce qu'il faut bien qu'il bosse, hein,
Ah oui.
parce qu'un poète qu'il a connu par ailleurs au château de Vic-sur-Broye a disparu. Et on lui demande, et c'est normal, de partir à la recherche de cet homme, puisqu'après tout, vous savez, des disparitions plus ou moins inquiétantes, c'est monnaie courante dans ce pays. Voilà,
Il y en a plusieurs
et
par
voilà.
jour, même sur Limoges.
Même sur Limoges.
Tout à fait.
Voilà.
Donc l'action se situe vraiment en Haute-Vienne, Vic-sur-Broye, Limoges.
Alors l'action, elle se situe à Limoges, au château de Vic-sur-Broye, c'est vrai. Du côté de Bourganeuf aussi, on va y faire un petit tour. Et puis on va se déporter un peu du côté de la région parisienne.
Ah, quand même.
Et puis du côté de Vaucresson, là où habite le père de Karim Gerbaud, qui est un universitaire, un spécialiste d'Arthur Rimbaud. Et puis il faudra bien aller terminer cette aventure, ce roman, là où Alain Gerbaud, qui existe vraiment,
Oui.
est enterré, c'est-à-dire à Bora Bora, précisément sur le quai de Vaitapé à Bora Bora. Donc vous voyez, on va Limousin, région parisienne, Polynésie.
On débute dans un endroit, puis après on s'étale,
C'est
on
ça.
part au travers le monde,
C'est un
à travers le
enchaînement.
monde.
Oui, ce sont des échelles différentes.
D'accord, ça vous en demandez beaucoup de recherches.
Oui.
Je fais une petite parenthèse, mais ça a dû vous demander beaucoup de recherches. Parce que vous êtes originaire peut-être du Limousin et
En
pas du
fait,
tout.
pas du tout. Je suis originaire de la Mayenne. Et c'est vrai
Oui.
qu'Alain Gerbaud est né à Laval.
C'est vrai.
Donc c'était un personnage qui, à Laval, fait, comment dire, l'unanimité. Mais il y a quand même une zone d'ombre chez Gerbaud. Cette zone d'ombre, c'est lorsqu'il a choisi en 1940 de rejoindre le maréchal Pétain contre toute attente, alors que toute la Polynésie française avait décidé, par un vote d'ailleurs, de façon très démocratique, de rejoindre la France libre. Vous voyez, cette zone d'ombre, moi, m'a toujours un peu gêné en tant que Lavallois et Mayennais. Je trouve qu'elle n'est pas. Bon, elle est un peu tue, quoi. Elle est un peu tabou. Et ce tabou-là, le roman, c'est l'ambiguïté. Donc ça permet quand même d'écrire quelque chose. Donc voilà quoi. Donc c'est.
Et donc, vous avez ouvert plusieurs tiroirs avec tous ces personnages dont vous décrivez, que vous décrivez dans le livre, et justement des personnages Bourganeuf, Limoges, la Polynésie, etc., Paris. Vous n'avez pas voulu parler de la Mayenne?
J'ai un peu parlé de la
J'ai
Mayenne,
fait
mais si, vous
un.
faites bien. Je parle de la Mayenne comme du vert paradis des amours enfantines, parce qu'on sait que Gerbault, avant de devenir l'aviateur, le héros de l'aviation française de la Première Guerre mondiale, puis le tennisman, cette espèce de dandy tennisman qui est allé comme jusqu'en finale de Monte-Carlo, qui a été aussi. Qui est devenu un navigateur hors pair, etc. Gerbault a connu en Mayenne une enfance. Protégé, édénique. Donc ça, c'est capital d'en parler. Et donc, oui, vous parliez des recherches tout à l'heure, je n'ai pas répondu à votre question, je vais y répondre maintenant. Oui, cela m'a demandé de faire un effort de recherche sur la vie d'un Gerbault, sur la Polynésie et sur l'Éthiopie, parce que je ne veux pas raconter de mensonges à mes lecteurs.
Vous avez tout à fait raison. On va faire une première page musicale, c'est vous qui l'avez faite, je précise. Donc vous avez choisi Erbarm dich mein Gott de Jean-Sébastien Bach,
C'est ça.
La Passion selon saint Matthieu,
Ouais.
Debussy, Clair de Lune, Mozart avec Madamina il catalogo è questo, c'est Don Giovanni ça.
C'est ça.
Et Ravel, Pavane pour une enfant défunte. Pourquoi ces choix?
Parce qu'en fait, ce sont des choix qui sont liés à ma culture, à mon enfance, aussi à la découverte de la musique, et de plus en plus. La musique pour moi c'est sans parole. Alors, vous voyez, c'est quand même paradoxal. Moi, je suis un homme qui écrit et maintenant j'ai besoin d'écouter de la musique sans parole que je ne comprends pas forcément tout de suite. Je ne comprends pas tout ce qui est dit dans Bach, pas forcément tout ce qui est dit chez Mozart, en italien ou en allemand. Bon, je m'y attelle, mais je ne comprends pas tout. Donc, c'est pour ça que la musique classique me permet de me décentrer finalement et de me reposer des mots.
C'est vrai, c'est reposant.
Hein. Ouais, exactement.
Bon, écoutez, ça de suite et on se retrouve tout de suite après dans le café des amis avec Hervé Benoît pour son qui nous parle de son livre Mauvaise Pente.
Thank you. mina. Il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio, un catalogo gli che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1300 e va tra queste contadine, cameriere cittadine, e contesse baronesse, marchesane, principesse, e vandogli, dogli grano, dogli forma, dogli età, dogli forma, dogli età. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1300 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e bandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età.
Thank you.
De retour avec Hervé Benoît pour son livre « Mauvaise pente » aux éditions Blackout, qui parle donc d'une mauvaise pente. Et d'ailleurs, pourquoi ce titre, cher Hervé ?
Alors, là encore, je vais en appeler au man d'Umberto Eco. Dans cette même...
Eh oui. Vous êtes fan, là. Hein.
Ah, je suis fan, j'avoue, mais il faut bien être fan, il faut bien avoir des maîtres. Dans l'apostille au nom de la rose, Umberto Eco dit ceci, « Un titre ne doit pas embrigader les idées ». C'est très intéressant. Alors, je vais vous répondre à côté, une fois de plus. Mauvaise pente, on ne peut pas savoir. Dans ce livre, certains personnages sont sur une mauvaise pente, d'autres pensent être sur une bonne pente. Vous voyez, c'est très aléatoire.
C'est l'ambiguïté.
C'est l'art du roman. Qui est sur la mauvaise pente, qui ne l'est pas ? Bon, je crois qu'il n'y a que le lecteur qui pourra le savoir.
Donc, vous laissez une grande part de mystère et une grande part de liberté au lecteur dans ce livre.
Absolument, Pierre, parce que, en fait, la littérature travaille aussi hors champ. Et comme au cinéma, il se passe tellement de choses à côté de l'écran que c'est pareil pour les livres, il se passe des choses entre les lignes, dans la tête des lecteurs, et ça c'est capital. On ne peut pas tout dire. Là encore, je me permets de rappeler un auteur qui m'est très cher, c'est Hannah Arendt. Quand elle travaillait sur la littérature, elle disait « La littérature, c'est transmettre le sens sans jamais le définir. »
Oui, tout à fait.
Et bien voilà, on en est là. Donc c'est normal de laisser... Il faut qu'il y ait une part de mystère, mais faut-il qu'elle soit suffisamment ménagée pour que le lecteur puisse y entrer et dire « Voilà, il y a une place pour mon interprétation. »
J'ai une question toute bête, vous avez des élèves.
Oui.
Est-ce que vous avez parlé de votre livre à vos élèves ou est-ce que certains sont tombés dessus par inadvertance dans un salon, par exemple ?
Alors, non seulement j'en parle à mes élèves, mais en plus, je leur dis, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas, je vous ferai une belle dédicace et on pourra même en discuter. Il n'y a pas de honte à ce sujet, c'est très bien d'écrire. Il n'y a pas d'imposture de ma part, je suis à la fois professeur et écrivain. J'assume ça complètement. Et bien sûr que mes élèves ont vu le livre sur les réseaux. Il y a déjà un petit peu de buzz. Il y a un peu d'écho. Donc, ils m'en parlent. Et je leur en parle volontiers. Donc, oui, bien sûr. Et c'est très intéressant.
Et leur retour ?
Leur retour, je
parle des élèves. Hein, on parlera plus tard des lecteurs.
Tout à fait. Le retour des élèves à propos du livre, c'est ça ?
Oui.
À propos du livre. Alors, j'ai un de mes élèves qui est maintenant en faculté de droit. Qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute l'émission, qui a lu le livre et qui m'en a parlé avec beaucoup de... Pas des propos élogieux, mais on voit qu'il connaît l'histoire, qu'il l'a appréciée et qu'il a reconnu dans certains personnages, certains traits de son professeur ou des conversations qu'on avait pu avoir, notamment en cours d'histoire. Donc ça, oui, c'est bien, quoi. C'est toujours... ça veut dire que l'échange continue.
D'accord, ça pousse à défendre le livre, ça pousse à écrire, ça pousse à avoir des discussions avec les lecteurs, les auditeurs, ou les gens qui sont plus ou moins réfractaires aussi.
Absolument, un livre en amène un autre, c'est l'histoire même de la littérature. Donc celui-ci en amène deux autres, qui ne sont pas tout à fait prêts, mais qui sont...
Ça, on en parlera dans la dernière partie.
On ne va pas vous les étapes.
Voilà, là, on est dans le livre, oui, dans Mauvaise Pente. Dans Mauvaise Pente. L'idée première, c'est une discussion donc, avec une personne d'origine...
Éthiopienne. Tout à fait.
Éthiopienne, que vous avez développée, qui a mûri en vous. Mmh. Et du moment où vous avez fait cette rencontre et vous avez eu cette idée, et ça a mis longtemps à venir d'écrire ce roman. Et combien de temps ce roman, ça vous a pris, quoi? Parle mal, là.
Non, Pierre, j'entends très bien. En juin 2024, j'ai eu cette conversation avec cette AED d'origine éthiopienne. Je surveillais le bac. Le week-end d'après, j'allais au festival de poésie à Vic-sur-Breuil. Exactement. Et le lundi matin, je surveillais le bac. Et je dois dire que j'étais de couloir. Bon, j'ai bien surveillé les couloirs, hein, que le ministre soit rassuré. Mais j'ai commencé à écrire immédiatement. Et tout de suite, les feuillets se sont accumulés les uns après les autres. Et tout de suite, un plan est apparu. Et j'ai même commencé à dessiner des lieux Et donc là, j'ai une confiance que je n'avais jamais connue et je sais que le livre allait naître. Je voyais bien qu'il arrivait. En fait, il advenait. Vous savez, en poésie, on dit que parfois, quand on écrit un poème et qu'on l'a terminé, qu'on est satisfait, on ne dit pas qu'on l'a écrit, on dit qu'on l'a découvert. Comme s'il y avait une couverture, n'est-ce pas, et
Je comprends.
qu'on l'avait enlevé.
Je comprends. Vous me parlez de dessiner.
Oui.
Vous avez dessiné physiquement ou mentalement?
Les deux. Physiquement, sur des feuilles de brouillon, en effet, j'ai dessiné par exemple des intérieurs, un salon, le placement de certains personnages, une maison, quelques collines. Ça, j'ai vraiment dessiné, j'avais besoin de ça. Et puis mentalement, oui, les choses sont venues avec cette idée qu'il fallait soigner l'art de la description.
Vous n'avez pas eu l'idée avec votre éditeur d'en inclure certains dans le livre?
Ah non, voilà, parce que franchement, ce serait faire offense au vrai dessinateur.
Mais ça ne veut rien dire,
Ouais,
hein.
je sais bien, on n'a pas tous les talents. Hugo avait ce talent extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est. Mais par contre, j'ai gardé. Je ne suis pas quelqu'un qui conserve beaucoup de choses. La plupart des documents ont été jetés. Mais j'ai gardé quand même quelques croquis. Donc je ne dois pas avoir si honte de ça. Que ça.
Vous n'avez pas jeté le manuscrit quand
Ah, bah écoutez, je dis, quand je suis pas si conservateur, il doit en rester un ou deux, mais pas plus que ça.
Ah bon? Vous
Ah
avez
oui.
jeté carrément l'original du manuscrit?
Ah bah écoutez, moi, j'ai
À
pas.
part l'éditeur qui doit
À part
l'avoir,
l'éditeur,
mais bien
à part
sûr.
Fabrice qui l'a, bien sûr. Mais oui, sinon, je suis pas très conservateur par rapport à tout ça. Je trouve que l'objet tel qu'il est publié, en plus avec le magnifique couverture produite par Thomas Agnolet, le peintre qui bosse pour les éditions Blackout, je trouve que l'objet est beaucoup plus sympa.
Justement, je revenais sur ce. Est-ce que pour vous, le premier de couverture est en adéquation avec le livre? Souvent de fois, il y a des écrivains qui me disent non. Donc c'est pour ça que.
Alors là, je dois dire que je suis à nouveau. Oui, je suis un écrivain heureux, hein, je suis très satisfait. Là aussi, j'ai
Bah, tant mieux.
une petite anecdote à livrer, c'est que Fabrice m'avait livré 6 propositions de la part de Thomas Agnolet.
Ah, il a fait fort
Ah, il a fait
là.
très fort. 6 propositions et ma compagne et mon frère qui étaient présents ce jour-là lorsqu'on a reçu les propositions, je les ai sollicités. Je leur ai dit, bah, écoutez, je suis embêté, je ne sais pas laquelle parmi les 6 je vais choisir, aidez-moi. Et tous les deux, sans se concerter, ils ont choisi la même. Donc, ces escaliers qu'on aperçoit, cette mise en abîme, ouais, je trouve que ça fonctionne très très bien. Je ne peux que louer le travail
D'ailleurs, c'est pas une mauvaise pente, c'est un mauvais escalier.
C'est un mauvais escalier, il faut faire attention dans les marches, on a l'impression.
Donc, ça a été pris de façon collégiale.
Exactement, c'était pris d'une façon collégiale. J'ai besoin des autres pour écrire.
Justement, vous avez fait lire du coup chapitre par chapitre à certains cobayes, on va.
Alors, non, le cobayage, je les remercie d'ailleurs, les cobayes. Le cobayage s'est fait une fois que le livre a été
Terminé?
terminé, pas avant.
D'accord.
Cette fois-ci, c'était important.
Et il y a eu, ils ont donné leur avis, ils ont dit ça c'est P1, ça il faudrait peut-être le revoir, non? Ils ont été critiques.
Ils ont été critiques, ce sont des gens qui sont durs en affaires, et ils ont donné un avis qui était cette fois-ci largement positif par rapport à ce qui leur avait été donné auparavant. Donc je savais que le soin que j'avais apporté au manuscrit serait probablement visible.
Donc vous êtes fier de votre petit ouvrage et votre entourage aussi, du coup.
Absolument, j'assume complètement.
Ça, j'avais compris que vous assumiez votre écrit et tout ça. Quand vous avez démarché plusieurs éditeurs, vous avez été directement chez Blackout, chez Fabrice Garcia Carpintero.
Alors, auparavant, j'avais démarché des éditeurs pour d'autres ouvrages qui ont été refusés. Je comprends tout à fait d'ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais Fabrice, je l'avais rencontré là, décidément, lors de ce festival de poésie à Vic-sur-Breuil. Et je savais qu'il publiait des romans qu'on dit noirs. Et donc, je voyais à peu près. On m'avait dit, écoute, tu devrais écrire un roman noir avec une part d'un peu de noirceur dans un roman. Et donc, je suis allé voir Fabrice directement et je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai un objet valable à proposer.
À quelque chose qui va
C'est
t'intéresser.
ça, exactement.
Oui, puis en plus, lui est fan de poésie, de slam notamment. On va faire une deuxième page musicale, si ça vous dérange pas. Je précise que c'est votre page musicale, c'est vous qui avez tout choisi. Donc, Marche pour la cérémonie des Turcs de Lully, ça c'est vraiment un grand classique. Un grand classique classique.
Ah oui, c'est ça.
Manon Lescaut de Puccini. Stravinsky avec non, alors excusez-moi,
C'est pas grave.
non erubescitae
Non erubescitae reges, c'est ça, c'est ça.
reges,
Si, c'est pas mal.
j'étais pas loin. Et Rameau avec les Indes galantes, les sauvages. Alors pourquoi ces choix? Il n'y a quand même pas que ce que vous écoutez, il y a aussi peut-être un petit clin d'œil à votre livre ou à un personnage de votre livre.
Alors c'est vrai, il y a quelque chose de très vitaliste dans la musique de Rameau, dans Lully évidemment. On trouve quelque chose qui est quand même de l'art, d'une certaine narration. On sent une marche, quelque chose qui avance, dans une certaine joie. C'est peut-être la joie de la création. Et puis pour les autres, je pense à Stravinsky et puis et d'autres que vous avez cités, Pierre. Il y a cette idée que la tragédie est une chose qu'il faut regarder telle qu'elle est. Et qu'elle ne peut pas vraiment être abîmée quand on la ressent. Le propre de l'art, c'est de la cristalliser. Cristalliser la tristesse. Et c'est pour ça que nous aimons des choses tristes parfois, écouter ou les lire, parce que l'art est tellement doué pour ça qu'il cristallise la tristesse et la tragédie. Mais je le dis dans le roman, il y a un moment où les personnages ont besoin que la tragédie soit telle qu'elle, et qu'elle ne soit pas abîmée par le rire ou par la gaudriole. Voilà.
C'était très théâtralisé, du coup.
Ah, complètement, ça peut l'être.
Ça peut être peut-être un prochain exercice d'écrire une pièce de théâtre.
Ah, j'aimerais beaucoup, j'en lis très peu. J'essaye d'en pratiquer à ma très modestement. Je lis très peu de pièces de théâtre, mais c'est un art enfin, pour lequel j'ai un grand respect. Je suis très impressionné par les performances des acteurs d'art dramatique. Et oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une idée.
Eh bien, on va écouter cette page musicale. On se retrouve tout de suite après dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Et bien sûr, l'émission est en podcast dès tous les lundis. Lundi matin, vous pouvez l'écouter ou la télécharger. Voilà. Et puis, n'oublions pas nos amis de DXPAT qui, eux, c'est en direct sur Internet, mais également en podcast sur le site theexpat.com. Bon, je vais y arriver. Merci beaucoup. À tout de suite dans la prochaine partie de l'émission.
mentita sul Dracula, mentita sul Dracula, qui rex, qui rex, e in terra figli, e tu sest, e rex, e in terra figli,
Thank you.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com ou sur le site The Expat, notre partenaire. Je reçois donc Hervé Benoît pour Mauvaise Pente, un livre des éditions Blackout. Je rappelle aussi à nos auditeurs, ben, j'oublie régulièrement, mes camarades de la radio me font le reproche régulièrement que l'émission est en podcast dès le lundi matin sur le site de la radio, bien entendu. Donc Hervé, je vais vous poser une question un peu peau de banane.
Allons-y.
Quel personnage vous ressemblerait le plus? Et pourquoi?
Alors, je vais essayer de ne pas me défiler. Mais vous allez voir que c'est pas si simple. Je crois qu'il y a une part de moi dans chacun des personnages.
Ça, c'est un peu normal.
Et c'est peut-être... Alors, vous allez dire, mais il se défile. Mais alors, je suis peut-être en train de glisser déjà sur cette peau de banane. Mais vous savez, Proust avait eu... On avait fait ce... Des gens avaient écrit à Proust lorsque la recherche avait été publiée. Et ils s'étaient fâchés très fort avec notre Marcel National pour dire, mais je me suis reconnu dans le duc de Charlus, je me suis reconnu dans Swann. Certains étaient contents, d'autres étaient très mécontents. En fait, moi, si je devais me reconnaître dans certains personnages ici, vous savez, hein, il y a Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi ». Oui, c'est vrai. Il y a une part de moi qui est dans cette Éthiopienne, Louam, pour la cité, une des héroïnes. Évidemment, il y a une part de moi qui est chez Karim Gerbeau. Il y a une part de moi aussi dans, je crois, l'écrivain qui va disparaître dans ce livre et qu'on va retrouver, qui est Paul de Mai. Parce que Paul de Mai, c'est un petit peu un jeu de mots, c'est presque Paul de moi, enfin de moi, enfin il y a un petit peu de ça. Donc en fait, il y a une part de moi dans certains personnages, oui c'est vrai, mais c'est pluriel en fait.
Et justement, l'autre part de ces personnages, vous êtes inspiré de vos proches ou pas? Alors, ou de personnes que vous avez rencontrées, ou des personnes de notoriété publique.
Oui, tout à fait. Eh ben, c'est vrai qu'il y a des gens que je croise au travail, dans ma famille, qui en effet ont des traits de caractère, des traits que j'ai notés. Vous savez qu'on note des choses, forcément.
Oui, aussi.
On a des carnets.
Vous parlez un convaincu, là. Hein.
Exactement. Et donc, ben, oui, il y a des gens que je... des amis... des gens de ma famille qui, en effet, peuvent prêter leur trait à certains personnages, oui, c'est vrai. Mais ce serait difficile de dire, j'aurais du mal à croire que quelqu'un puisse dire un jour « Oh, je me suis reconnu dans tel personnage », parce que c'est pas possible. Oui. Il y a vraiment un mélange et une sorte de, c'est ça, de couture. C'est, là aussi, je reviens à Proust. Proust, à propos de son œuvre, parlait et dit « On a souvent vu mon œuvre comme une cathédrale. Bon, très bien, c'est une cathédrale, mais c'est surtout... un ouvrage de couture, j'ai cousu. » Alors on peut coudre parfois des choses qui sont, qui viennent de l'un et de l'autre.
D'accord, vous avez pris de tout le monde en fait.
Mais il y a un peu de ça. Hein.
D'accord.
Il y a un peu de ça, oui, c'est vrai.
Et dans ce livre, est-ce que vous avez voulu rendre hommage à quelqu'un de particulier? Ça arrive des fois.
Je sais que j'ai. Vous avez raison. Je parle au début de l'œuvre. Je mets en exergue une citation de Stig Degerman, qui est un poète scandinave, qui nous a laissé une petite œuvre remarquable qui s'appelle Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Une œuvre posthume. Et ça fait 12 pages. C'est bouleversant. Moi, je conseille n'importe qui d'ailleurs de se le procurer le plus vite possible. Et Dagerman a ce génie de dire, comment dire, la tragédie du monde et de la mettre en poésie. Donc, c'est vrai que Dagerman, qui ouvre un peu le livre, c'est vraiment un poète exceptionnel. Et puis, on parlait de Gerbeau tout à l'heure. Bah, Gerbeau, tout de même, il aura été un héros français, un navigateur hors pair. Il aura lutté contre le colonialisme, contre la bêtise des préjugés blancs à l'égard des Polynésiens. Et même s'il a fait un mauvais choix, même si lui, il était sur une mauvaise pente à un moment, il faut le rendre hommage à Gerbeau. Il a lutté vraiment pour que les gens soient reconnus dans leur culture en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. Donc oui, il y a un hommage à Gerbault que j'assume complètement.
De toute manière, qui n'a pas fait de bêtises dans sa vie
Exactement.
ou pris le mauvais chemin à...
La mauvaise pente.
La mauvaise pente, il me l'a enlevé de l'île. J'aimerais maintenant que vous me lisiez quelques pages
Oui.
de votre livre, de façon à ce que déjà votre voix se marie avec les mots. Je ne sais pas ce que vous allez nous lire, mais je vous laisse libre choix.
Eh bien, je vais vous lire tout simplement. C'est une chose que je fais très souvent lorsque je propose le livre à des lecteurs, notamment lors de festivals. J'en suis, vous pouvez peut-être tout simplement lire les premières lignes. Alors, je vais vous proposer les premières lignes et puis dans un second temps, un passage où on sera plus avant dans le roman. Il stoppa sa voiture au numéro 32. La soirée était organisée au 12. Il parcourut les quelques 300 mètres avec nonchalance, avec plaisir aussi, car il avait l'esprit de détail. Il était bon observateur et cette qualité s'épanouissait dans la contemplation. Il aimait les jardins, ceux des autres, autant que ceux qui avaient été les siens, surtout parce qu'il n'y entrerait jamais. Il admira une glissine qui enlaçait les barreaux rouillés d'une grille de deux maisons mitoyennes. Puis il posa son regard sur un figuier d'une rare envergure, et plus loin, il y avait une clématite. Elle avait colonisé le mur en briques d'un atelier. Cette niaiserie d'aimer ainsi les parcs. Contempler, puis écrire, quelques poésies, de temps en temps en avoir un peu honte, et puis continuer d'y croire. J'ai quand même quelque chose à dire. Le numéro 12, une maison avec son soubassement de granit gris. Toiture qui s'avance pour protéger la façade, grandes fenêtres, des volets métalliques, du béton bien lissé, bien employé. Le savoir-faire des années 20 et 30, mieux que les maisons du 19e, pensa-t-il, bien mieux. Il sonne, pas de réponse. Il patiente encore, un instant, puis un autre. Quelqu'un vient, il lève les yeux. Une ombre se dirige vers la vitre dépolie de la porte d'entrée, située au-dessus de l'escalier extérieur, et lui attend derrière un portail blanc métallique, au bas des marches, comme un profane.
Vous avez une lecture très intérieure, enfin une écriture très intérieure, pas une lecture.
Un deuxième passage?
Allez, un deuxième passage pour nos lecteurs.
Donc on est à peu près ou un peu plus de la moitié du livre. Il faut que je retrouve le passage en question.
Je vous en prie, mais en fait, bon, vous écrivez de façon très intérieure sur ce que vous avez lu.
Ah oui.
On voit l'intérieur du personnage. C'est ça qui est vraiment
Oui.
touchant. Voilà.
Ah oui, ok. Alors là, on est dans un passage où c'est une discussion entre Karim Gerbault et son père. Et son père lui répond à peu près, enfin, on va l'entendre. Il demanderait aussi des comptes sur son grand-oncle. Que savait-il qu'on ne savait pas déjà? Il connaissait d'avance la réponse. Tu m'as déjà demandé, je n'en sais pas plus que ce qui a été rapporté par ceux qui se sont intéressés à lui dans les derniers temps. Que veux-tu savoir de plus? Pourquoi cette collaboration qui a tout gâché, c'est ça? C'est de ça encore dont tu veux parler? Pour moi, c'est un épisode navrant, ça n'a pas plus d'importance que la collaboration éphémère de celles et ceux qui ont fini par résister. Le fascisme, c'était un truc de jeune, c'était in, c'était le futurisme à défaut du futur, un bras d'honneur adressé à la bourgeoisie. Que ton oncle ait été, quelle importance? Pourquoi le lui reprocher? C'est ce que tu veux? Toujours ces mêmes réponses. Il se souvenait pourtant qu'il s'était rendu à Laval. Place de RC. Il était enfant. Quel âge? 6 ans ou 5 ans, à peu près dans cette zone-là où les premiers souvenirs sont assez nets pour qu'il y ait des couleurs fixées, des bruits, des sons, des parfums. Un matin de printemps, un vent frais, une ville de l'Ouest, catholique et moitié bretonne, moitié normande. Dans le Maine, en fait. Cette grande place carrée, des demeures bourgeoises, blanches et fières, comme on en voit à Angers et à Tours. Sauf qu'ici, il y a aussi du granit dans les jambages des fenêtres et dans les angles des murs. Ce gris qui se marie avec ce blanc. C'est l'ouest. Son père lui montre une demeure de 3 étages, presque un château. Une cour de gravier blanc produit ce son sous les pas si remarquable qui n'appartient qu'à l'univers des riches. Cette maison de maître, au cœur de la ville, c'est celle de la famille Gerbeau. Excepté ce souvenir, peu de choses, peu de mots, guère d'anecdotes, pas ou quasiment pas de photos.
Dites-moi, moi j'ai une question bête à proposer. Quel est. Vous avez lu, j'ai parlé d'intérieur, c'était vraiment des pensées très intérieures, très. Quel est votre auteur préféré? Bon, allez, on va dire les 5 premiers.
Les 5 premiers,
que,
oui, parce que,
parce que je pense que
c'est toujours difficile.
C'est toujours difficile, oui.
Alors, on va commencer par une femme, c'est Émilie Brontë.
Ah,
pour
sûr.
Les Hauts de Hurlevent, sans elle, je parle d'elle comme si elle était encore de ce monde. Je lui dois beaucoup à cette femme, parce que sans elle, ben, j'aurais pas lu, donc j'aurais pas écrit. Émilie Brontë, forcément, je pense aussi à la philosophe Hannah Arendt, autre femme remarquable qui m'a marqué parce que c'est difficile de rendre intelligible ce qui est compliqué. Et Arendt y arrive toujours, toujours. Et puis évidemment, Marcel Proust, on en parlait tout à l'heure, je crois que ça a été une révélation que de lire La Recherche entre mes 19 ans et mes 20 ans. Et puis, un cousin allemand de Marcel Proust, en quelque sorte, Thomas Mann pour La Montagne Magique, parce que là, c'est une expérience aussi quasiment... quasiment ésotérique, hein, fondamental.
Tout à fait. On retrouve bien les sœurs Brontë, enfin, dans ce que vous m'avez lu. C'est pour ça que j'ai eu cette idée-là, de vous poser cette question, et je ne m'étais pas trompé.
Vous n'êtes pas trompé, bravo. C'est
ça. De beaucoup de Proust, oui, mais par contre, les sœurs Brontë...
L'univers celtique, l'Ouest, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui tient de... qui moi, m'a toujours parlé, oui.
D'ailleurs, Les Hauts du Hurlevent, ça peut être un roman noir.
Hein, ah, mais oui, exactement.
Moi, je l'ai lu en anglais et en français à l'époque de mes études. Et c'est vrai que c'est un roman noir.
Tout à fait. J'en parlais avec ma compagne. On parlait tous les deux de souvent, enfin souvent, on a souvent parlé des Hauts du Hurlevent et de ce roman culte, en effet. Mon Dieu, les marches dans la lande autour de...
C'est super inquiétant.
Autour des Hauts du Hurlevent, ouais, c'est vraiment un roman noir, tout à fait, bien sûr.
On va faire donc une deuxième page, une avant-dernière page musicale, pardon. Donc, vous avez choisi le titre de North by Northwest par Bernard Herrmann.
Exactement.
Le thème de la liste de Schindler de John Williams. Aria de Salambo par Bernard Herrmann, encore. Et le thème majeur donc, de la 9e porte par Francisco Relano Pena. Pourquoi ces choix ?
Eh bien, parce qu'avec ces choix-là, on entre dans... On rejoint à nouveau l'idée de la tragédie. Je pense à ces morceaux d'ion extraordinaires à propos de la musique du film La Liste de Schindler.
Oui.
Donc là, on est dans cette espèce de tragédie qui déroule son tracé. Hein. On ne peut pas arrêter la tragédie. Et pour le reste, eh bien... c'est-à-dire, ce sont des musiques qui comptent énormément... parce que alors j'ai oublié un des titres, Pierre, pardon, je revenais au premier titre que vous avez cité, je disais moi-même oublié.
North
by ah, oui,
Northwest,
oui, c'est ça. Alors là, parce que vraiment, c'est vrai que dans Mauvaise Pente, c'est quand même un roman noir, et il y a quand même une part de suspense, des poursuites parfois un peu rocambolesques, c'est ceux qui sont poursuivis qui poursuivent ceux qui les poursuivent, etc. On est à front renversé parfois. Et dans la musique de Bernard Herrmann, pour illustrer les films de Hitchcock, on ressent cette idée de la poursuite.
C'est vrai.
C'est absolument. Vrai. Donc là, je pense que c'était nécessaire d'y faire écho.
Eh bien, on écoute votre programmation musicale. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission. De retour dans cette dernière partie d'émission, dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com, mais également chez nos amis des expats. D'ailleurs, je fais un petit coucou général à tous nos expatriés français, francophones, qui sont au travers le monde. Notamment, je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en Australie. Donc, je lui fais un petit coucou. On va revenir dans la dernière partie. Donc, dans cette dernière partie, j'aimerais qu'on parle de ton rapport avec les lecteurs, mais également leur retour, bien sûr, parce qu'un lecteur, il lit, mais il aime, il aime pas, mais surtout, en général, quand il y a des retours, il aime, et ce qu'ils en pensent et ce qu'ils attendent du prochain livre.
Alors, le livre est sorti depuis le mois d'août. Il est
récent.
Récent, et c'est vrai qu'il va sortir véritablement le 29 octobre. Alors, j'ai déjà à peu près une cinquantaine de lecteurs, et parmi ces cinquantaines de lecteurs, quand j'ai des retours, je le dis, des retours positifs. Les lecteurs sont intéressés par... comment dire, le fait que c'est une vraie fiction, je crois que des gens s'attendaient à ce que ce soit à nouveau quelque chose qui tienne de l'autobiographie déguisée. Or, ce n'est pas le cas du tout. Là, en effet, c'est une fiction qui paraît assez originale. Les gens disent des Éthiopiens, pourquoi l'Éthiopie, Gerbaud, qui est ce monsieur? Pourquoi est-ce qu'on peut commencer, on parle de Bourganeuf et que tout ça se termine en Océanie? Donc, je crois que le roman intrigue.
A surpris.
Et d'après les retours que j'ai, je vois que j'ai bien fait de travailler la structure et de travailler le plan parce que il me semble, mais je ne veux pas spoiler, comme dit, je ne voudrais pas déflorer le sujet. La fin, en fait, vous voyez, c'est un peu, là aussi, je pense à une autre grande œuvre, à Don Quichotte, quand on dit qu'au début, ils se sont tous retrouvés dans une auberge au centre de l'Espagne et puis qu'à la fin, on retrouve à peu près le même motif. Moi, je crois qu'à la fin de mon livre, tout le monde se retrouve et que les intrigues qui s'étaient entremêlées s'éclaircissent complètement. Donc, voilà, je crois que j'ai un retour positif par rapport à tout ça.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à des lecteurs? Je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui me racontent des anecdotes qui leur sont arrivées sur des salons du livre ou de dédicaces dans les librairies. Il y a des fois des anecdotes, c'est très très drôle. Et je sais que nos auditeurs sont assez friands de ce genre d'anecdotes.
Oui, tout à fait. Je me souviens qu'à Riac, j'ai proposé le roman à une femme qui apparemment était férue d'écriture et de littérature et qui n'avait pas forcément envie de s'arrêter et qu'on discute. Et pourtant, au fur et à mesure de la discussion, de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que le héros portait son nom de famille et que Alain Gerbaud, qui avait quelqu'un qui s'appelait aussi Alain Gerbaud dans sa famille, etc. Donc ça, elle a ouvert de grands yeux. Puis ce qui nous a rapprochés, c'est le fait qu'on ait parlé de littérature. Je me suis rendu compte que cette femme écrivait. Je lui ai dit, écoutez, vous écrivez, n'est-ce pas? Oui, j'écris. Et on a parlé de son livre. Et finalement, elle a acquis Mauvaise Pente. Et j'espère qu'elle en fait, elle doit être en train de le lire en ce moment. J'espère qu'elle en fait une lecture agréable. Mais ce qui était intéressant, vous voyez, Pierre, c'est que les gens se révèlent dans ce genre de choses. Ils disent, certes, je lis votre livre, mais moi aussi, j'écris. Et ça, c'est formidable.
D'accord. Et elle n'a pas dit ce qu'elle écrivait?
Non, elle n'a pas dit ce qu'elle écrivait, mais il me semble d'avoir retenu que c'était un roman. Mais elle ne voulait pas aller plus avant parce qu'il y a une sorte de... C'est normal, une sorte de pudeur rapport à tout ça.
Donc, bien sûr.
Mais c'est un roman.
Et il y a tellement de gens qui sont volés. J'ai reçu une auteure il y a quelques années qui, elle, carrément, son livre s'est retrouvé écrit par une autre... ouais, non, mais véridique. Hein. Véridique. Hein. Et elle, enfin, ça s'est terminé correctement pour elle parce qu'elle a récupéré son manuscrit. Elle a pu le publier sous son nom. Mais le fameux livre, c'était un auteur très connu qui avait son éditrice lui avait donné le bouquin.
D'accord.
Et elle a réécrit le bouquin à sa manière. Et ça a été un gros. Flop. Pour information. Alors que le bouquin de l'auteur originel, eh bien, il a très très bien marché.
Tant mieux, une justice.
Il y a une justice,
Très bien.
voilà. Mais comme quoi, faut faire attention quand on envoie un manuscrit chez un notaire. Un éditeur,
C'est un
il faut,
lapsus.
c'est un lapsus,
Bravo.
il faut absolument déposer son manuscrit, soit chez un notaire ou contacter un avocat ou quelqu'un de justice
Tout à
qui
fait.
garde le manuscrit pour preuve. Ou alors, le truc très. Ça, c'est une combine que je peux laisser. C'est-à-dire
Évidemment.
que vous envoyez un recommandé avec le manuscrit. La date fait foi.
Et vous êtes protégé.
Et vous êtes protégé naturellement. Ça, c'est pour la petite anecdote qui n'avait pas trop lieu d'être. Donc, là, le livre vient juste de paraître, Mauvaise Pente, aux éditions Blackout. Est-ce qu'il y a déjà dans les tiroirs quelque chose qui est en attente ou qui est en train de germer ou d'être écrit?
Oui, il y a deux romans qui sont quasiment écrits. Alors, quasiment, j'entends bien le sourire des auditeurs. Oh, dans le quasiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réécrites, redites,
Bien
retravaillées.
entendu.
Mais oui, bien sûr, il y a un roman que je compte bien proposer à Fabrice Garcia Carpintero aux éditions Blackout, qui pour le moment s'appellerait Guernesey. Un roman qui évoque la période de la guerre des Malouines et l'idée qu'un jeune homme doive succéder à son père qui a fondé une banque lorsque Margaret Thatcher et Reagan ont commencé la révolution néolibérale. Ce père-là s'est enrichi en fondant une banque offshore à Guernesey. Et le fils, lui, s'est complètement éloigné de cet univers-là du fric facile, en quelque sorte, en venant en limousin. Et à la mort du père, et une mort un peu étrange, un peu bizarroïde, il faut qu'il assume ses responsabilités d'héritier. Il doit retourner à Guernesey. Et en retournant à Guernesey, eh bien, il y a tout un. Comment dire, l'écheveau va se démêler et il y a toute une histoire qui va commencer. Il y retrouve sa sœur. Et il faut absolument assumer l'héritage du père, c'est vrai. Mais a priori, durant la guerre des Malouines, il y a. 20-30 ans avant que l'histoire ne débute, des choses étranges se sont déroulées. Et il faut éclaircir tout cela.
D'accord, ça sera un autre roman
Un autre
noir,
roman.
mais bon, là, on n'y est pas encore au niveau de la sortie.
Tout à fait.
Hein, et d'autres projets artistiques,
Alors.
littéraires, vous parliez de poèmes au départ,
Oui.
est-ce qu'il y a peut-être une option de faire paraître ou faire des lectures de poèmes, genre le slam, on parlait de la passion de Fabrice Garcia Carpintero. Qui fait du slam avec des poèmes, justement.
Oui, alors en fait, j'écris toujours de la poésie. Je remercie d'ailleurs Marie Virol des éditions Mars A et la revue A. Quelques-unes de mes poésies ont été publiées dans la revue A. Et là, c'est vrai que je ne passe pas une journée sans écrire de poésie. Et je compte bien proposer à Marie et à d'autres, si possible, toute une série de poésies que j'ai écrites durant les mois qui ont passé. En fait, l'écriture, c'est pluriel. On écrit des romans, c'est vrai, mais on écrit forcément de la poésie à côté. Et d'ailleurs, la poésie joue un grand rôle parce que la versification, le travail au plus près du texte, parfois, est déstructuré dans la prose romanesque. C'est difficile à dire, mais c'est comme si c'était une chambre d'écho. Ce qui est écrit dans les carnets, dans les cahiers, c'est très libre la poésie. Et bien tout ça parfois se retrouve structuré comme un négatif photo dans la prose. Donc en fait, pour moi, les deux écritures vont ensemble. Donc oui, je compte bien proposer aussi un projet poétique par la suite.
D'accord. Quel type de littérature, enfin de livre, vous n'écrirez jamais?
Ah, ça,
Ça,
c'est
c'est.
ça, c'est une très bonne question. Il y a forcément une réponse à cette question. Alors, bon, écoutez, moi, je respecte infiniment ce qu'on appelle la fantaisie, mais je pense que d'une part, je ne suis pas doué pour ça. D'autre part, je n'ai pas vraiment de goût pour ça. J'ai essayé de m'y mettre, mais je n'y arrive pas. Je n'aime pas non plus le polar ensanglanté ou sanglant.
Le thriller, quoi.
Le thriller avec, mon Dieu, des gens qui sont découpés de haut en bas, de droite à gauche et dans tous les sens, et on y passe des pages entières pour nous. N'est-ce pas? On est quasiment à la morgue, à la médecine légale et puis à la boucherie en même temps. Bon, c'est un peu. Là, j'avoue, ça, je peux pas. Hein. Moi, je sais recoudre des textes, mais pas des cadavres les uns avec les autres. Ça, j'arrive pas.
Et quel type de livre vous aimeriez écrire? Dans quel...
Alors,
Ça, c'est
ça, c'est la question.
que
Ça,
tout le monde se pose en
mais
général.
c'est la pierre philosophale.
Ouais.
Alors, je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule pour le moment Blondie du Berry. Alors, dans ce livre, c'est là aussi un polar prétexte. Deux hommes ont été amoureux de la même femme, pas au même moment, hein, mais de la même femme. Henri Pasolini, qui était un descendant de Pierre Paolo Pasolini, et Stéphane Sand, qui n'est absolument pas un descendant de George Sand. Henri Pasolini est un espèce de dilettante, hein, n'est-ce pas, universitaire, un peu hors sol, et tandis que Stéphane Sand, lui, est un garagiste qui bosse dans la Brenne, pas très loin d'Argenton-sur-Creuse. Et ces deux hommes-là ont connu une femme qui les a marqués à tout jamais, qui s'appelle Blondie du Berry, c'est son nom, son prénom, un peu popue, transfuge de classe, mais à la fois très cultivée, et cette femme a disparu. Et en fait, il faut la retrouver, et les enquêtes de police n'ont rien donné, et donc on voit Henri Pasolini qui un jour vient voir Stéphane Sand et qui dit, écoute, il faut que tu m'aides, nous avons aimé la même femme, il faut que nous la retrouvions. Et en fait, dans ce roman-là, c'est le lien entre les personnages, leur affection, leur sollicitude. Un de mes collègues poètes disait, si on est sur Terre, c'est pour s'aider les uns les autres, pour prendre soin des uns des autres. Mais c'est tout à fait vrai. Donc je vois un roman. J'espère que ça pourrait être ce roman-là où on voit des gens qui prennent soin les uns des autres au milieu du péril.
Je
Et
vois.
voilà le livre que je voudrais écrire.
Ah, c'est une belle parole. Alors, la mission malheureusement se termine. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs? À part lire bien sûr ce livre, Mauvaise Pente d'Hervé Benoît aux éditions Blackout.
Je voudrais leur dire ceci. Alors d'abord, l'exercice de la radio, c'est un exercice d'écoute. Donc les gens écoutent forcément. Et quand on écoute la radio, on fait aussi autre chose. On est un peu hors cadre, en fait, en quelque sorte. On est là aussi hors champ. Et dans le hors champ, il y a toute une place pour l'imagination. Donc je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que s'ils écrivent, ils doivent continuer à le faire. C'est capital pour leur vie, pour eux. Il faut croire en eux. Voilà. Et je veux leur dire aussi que la vraie maison, c'est la littérature.
Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Comme fin. Donc, on va terminer par votre programmation musicale. Donc, c'est Léo Ferré avec Le Temps, Jacques Brel avec La Ville s'endormait et Alain Bachung avec Aucun Express. Pourquoi ces choix qui sont... On finit par la chanson, après le tout classique, on vient à la chanson.
Alors pourquoi ces choix? Parce que il est rarissime que la chanson rejoigne la poésie la plus parfaite. Et je pense que dans ces trois cas-là, La Ville s'endormait de Brel, là aussi j'évoque ma compagne avec qui j'ai souvent parlé de cette chanson, ben on y est, quoi. On touche à quelque chose qui est de l'ordre de la poésie la plus pure. Aussi le romantisme. Brel assumait absolument ce romantisme. Je crois qu'il y a une part de romantisme en moi qui s'exprime dans Mauvaise Pente, et là aussi, il est complètement assumé. Donc ça rejoint, ça fait écho à cela. Et avec Le Temps de Léo Ferré, ben là aussi, je parlais de cette idée de la tragédie qui ne pouvait pas être abîmée, qui ne pouvait pas être galvaudée, n'est-ce pas, qui est telle qu'elle, telle qu'on la voit. Mais la tragédie du temps qui passe, ben, elle est dite par Léo Ferré. Et puis Aucun Express d'Alain Bachung, parce que la littérature nous transporte. Et qui a mieux chanté le transport qu'Alain Bachung? Je connais personne d'autre.
C'est pas faux. Bien, merci beaucoup.
C'est moi,
à
c'est
très
moi.
bientôt. Et donc je recommande donc Mauvaise Pente d'Hervé Benoît aux éditions Blackout. Et vous pouvez retrouver l'émission dès demain matin sur RTF rtflimoges.com et sur theexpat.com. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour le prochain livre.
À très bientôt,
On prend rendez-vous.
on prend date. À très bientôt.
À très bientôt.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé. Qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Qui vous disait tout bas les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait.
la ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante, je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.
Ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché.
aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Ne me laissera bouche bée. Aucun balala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va. Sinon, j'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.